Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Stéphane Carpentier. Bonsoir Stéphane.
C'est vrai, bien à l'heure. Bonsoir Isabelle, oui. Bonsoir à tous. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Soir le vendredi. 2 heures d'infos en direct pour tout savoir et tout comprendre. Avec ce soir sur la table, la colère des policiers devenus des proies des terroristes comme à Rambouillet la semaine dernière. Des cibles comme avant-hier à Avignon. Un brigadier, papa de 2 enfants, abattu par des trafiquants de drogue. Des forces de l'ordre qui dénoncent un climat de haine et de violence à leur encontre. Selon eux, l'État ne les protège pas. Le fossé se creuse avec la justice. Ils suspendent donc leur participation au prochain Beauvau de la sécurité. Ils marcheront à Paris le 19 mai en souvenir de ce policier tué dans le Vaucluse. Les syndicats seront reçus par Jean Castex en début de semaine prochaine, le chef du gouvernement qui débloque 10 millions d'euros pour sécuriser les commissariats et moderniser leurs équipements. Émotion, colère et écœurement. C'est le sujet du soir commenté à 18h15 par David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Il sera notre invité, soyez tous les bienvenus. RTL Soir, c'est le journal, les grands titres avec Amandine Bégaud. Bonsoir Amandine.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et il y a du foot ce soir, Lens-Lille, derby ô combien prometteur entre le 1er et le 5e du classement. Une chose est sûre, l'ambiance est au rendez-vous, nous irons sur place dans un tout petit instant. Dans ce journal également, Éric Dupond-Moretti qui promet la plus grande fermeté après le féminicide de Mérignac. « Je n'aurai pas la main qui tremble », dit le ministre de la Justice. Et puis on vous emmènera en Allemagne où les personnes vaccinées contre le Covid vont bientôt pouvoir retrouver une vie normale. Et oui.
Vos incontournables dans RTL Soir. Petit 1, Éric Brunet tout à l'heure et sa liberté de parole. Le rendez-vous est pris pour 18h50 pour les temps forts de la semaine. Petit 2, on défait le monde. 19h15, ce sera avec Sini et compagnie. Avant cela, la météo de demain. Bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
Chaud ce samedi, très chaud même.
Oui, même très chaud. C'est le moment de ressortir les petites robes d'été, même les t-shirts, car en effet, une journée estivale, on sera 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, avec le mercure qui va même flamber jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Et donc au programme, sinon côté ciel, le soleil sera au rendez-vous, à l'exception d'un petit tiers nord où il y aura encore un petit peu de nuages récalcitrants.
Merci Claire.
RTL Soir.
Et pour commencer, donc direction Lens, et à 3h du coup d'envoi d'un derby historique contre Lille. Grosse ambiance déjà, les supporters ne seront pas dans le stade, hein, Covid oblige, mais ils ont tenu à encourager, et pas qu'un peu, leur équipe, Antoine de Carne.
Oui, la ferveur s'est emparée des Lensois à quelques heures du match. Ils attendent le départ du bus de leur équipe devant l'hôtel où patientent les joueurs. Près de 2500 personnes s'égosillent pour supporter leur équipe. On attend ce match ici avec impatience.
Nous, on est là pour les encourager, avoir le départ au stade. On va montrer qu'on est là avec eux jusqu'au bout.
Qui est-ce qu'aurait dit que Lens aujourd'hui avait cette place-là? Personne. Jouer que Lens gagne.
Tous veulent voir leur équipe surprise de l'année en Ligue 1, toujours en lice pour la 5e place, battre l'éternel ennemi lillois.
On nous attendait pas là, quoi. C'est formidable. Maintenant, si on peut arriver d'être 5e, battre Lille pour leur priver d'être champion, ça serait fantastique.
Et on est ici à quelques mètres du stade Bollard. Pourtant, les tribunes seront bien vides ce soir. Difficile à supporter pour les supporters sans et or.
Quand on voit la ferveur autour de ce match, on a juste envie d'y être, de faire des derbies et qu'on sait ce qu'on loupe, ça fait mal au cœur. Si on avait pu faire ça au stade Bollard, ça aurait été un moment, je pense, mémorable.
Et dans quelques instants, les joueurs devraient sortir de l'hôtel pour rejoindre le stade. Coup d'envoi prévu à 21h. Pour cette bataille du Nord.
On se croirait presque dans le stade déjà. Antoine de Carne à Lens pour RTL, Lens-Lille. Ce sera bien sûr à suivre en direct hein, ce soir sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h.
Le reste de l'actualité, Amandine, 48 heures après le meurtre d'un policier en plein cœur d'Avignon, la traque se poursuit.
Et sur place, on va tout de suite retrouver Frédéric Perruche. Bonsoir Frédéric, d'importants moyens sont toujours déployés ce soir.
Ah oui, des dizaines d'enquêteurs sont mobilisés de la PJ essentiellement venus de Montpellier, Marseille et Nîmes pour renforcer leurs collègues d'Avignon et la police scientifique de Lyon travaillent sur les douilles retrouvées sur la scène de crime à la recherche d'empreintes ou de traces ADN. Les riverains sur un large périmètre ont déjà été entendus. Les vidéos des caméras de surveillance de la ville ont été décortiquées pour tracer le parcours des fuyards et peut-être obtenir des images exploitables de leurs visages et des vêtements qu'ils portaient. Les policiers comptent également sur les informations que pourrait leur fournir la toxicomane en garde à vue, témoin de la fusillade qui venait d'acheter du cannabis aux 2 dealers. Des investigations tous azimuts qui devraient permettre une identification rapide du tireur et de son complice. Il faudra alors déterminer leur point de chute avec certitude et faire intervenir les forces d'élite de la BRI et du RAID pour procéder aux interpellations à risque d'individus dont l'un des deux n'a pas hésité à tuer de sang-froid à bout portant un policier de 36 ans.
Frédéric Perruche en direct d'Avignon pour RTL. Et ce matin, Jean Castex a tenu à rendre hommage appuyé à Éric Masson, un policier exemplaire, un serviteur de la République, mort au service de son pays, a dit le Premier ministre. C'était lors d'un déplacement à Sarcelles dans le Val d'Oise. À Gonesse ensuite, il a échangé avec des enfants, des élèves de CM2, autour cette fois de la crise sanitaire.
J'ai une question à vous poser. Quand est-ce que les enfants vont se faire vacciner?
Ah, alors ça, c'est une question très importante. Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas dit qu'il fallait que les enfants se fassent vacciner. Donc dès qu'ils auront répondu à cette question, parce qu'il faut s'assurer que c'est souhaitable, que c'est possible, qu'il n'y a aucun danger, que c'est utile, tu comprends tout ça, eh bien, à ce moment-là, on pourra l'envisager. Voilà.
Quand est-ce que travailler. Le corona va se terminer?
Ah, j'espère bientôt. On en a encore pour un certain temps, mais on va y arriver.
On espère tous bientôt. Échange recueilli pour RTL par Jacques Serret. Alors à partir de mercredi, on le rappelle, hein, plus de limite d'âge pour la vaccination. Tous les plus de 18 ans pourront prendre un rendez-vous la veille pour le lendemain s'il reste de la place.
Les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner, 55% des 18-24 ans. Selon Santé publique France, ils étaient à peine plus d'un tiers à la mi-mars.
Et en Allemagne, les vaccinés vont bientôt pouvoir retrouver une vie normale ou presque. Ils ne seront plus, par exemple, soumis au couvre-feu. Alors qu'en disent les premiers concernés, contents ou pas? Samuel Goldschmidt, vous vous êtes rendu à Sarrebruck, juste de l'autre côté de la frontière avec la Moselle.
Évidemment, ceux qui se sont fait vacciner avec les deux doses sont contents, mais ils ne le crient pas forcément sur les toits comme Suzanne.
C'est clair qu'il y a deux parties de la société actuellement et comme on a donné priorité aux personnes âgées, les jeunes ne sont pas forcément contents parce qu'ils disent pourquoi entre guillemets les vieux peuvent faire la fête et pas nous, c'est pas juste. C'est clair que ce débat de la jalousie du vaccin existe, mais vu comment les vaccins sont en train d'accélérer aussi en Allemagne, on peut espérer que c'est un débat qui dure quelques mois. Et après, c'est vraiment terminé. C'est ce que j'espère.
Les Allemands ont même inventé un mot pour la jalousie du vaccin.
Impfneid. Man ist neidisch.
On est jaloux des vaccinés parce qu'ils ont plus de droits que les autres. Mais c'est sans doute un très bon moyen d'inciter les sceptiques à se faire vacciner aussi.
Ce jeune homme de 22 ans ronge son frein en étant plutôt stoïque.
Je me suis inscrit et j'espère avoir un rendez-vous le plus vite possible. Mais comme le gouvernement autorise à nouveau le AstraZeneca pour tous les âges, je vais peut-être faire la fête plutôt que prévu.
De toute façon, relève les habitants de Sarrebruck, la plupart des magasins sont encore fermés. Le plaisir de se promener partout est donc encore très relatif.
Et on va pouvoir attendre pour la jalousie donc des vaccinés. Merci à vous Samuel Goldschmidt. Depuis Porto, Emmanuel Macron lui appelle les anglo-saxons à arrêter de bloquer les exportations de vaccins et les ingrédients nécessaires pour les produire. Une déclaration faite en marge du sommet social qui s'est ouvert aujourd'hui. L'idée, Vincent Derosier, c'est de gérer l'après-crise, le volet social, en faisant le moins de dégâts humains possible.
Oui, c'est un peu le concours de qui sera le plus à gauche ici. Les chefs d'État européens n'ont pas oublié la crise de 2008, l'austérité qui avait été imposée au peuple comme en Grèce et la défiance qui s'en est suivie. Avec la crise sanitaire, certains pays craignent une révolte sociale tout simplement. Alors les 27 vont se fixer des objectifs à l'horizon 2030, créer plus d'emplois, améliorer les parcours de formation ou réduire de 15 millions le nombre de personnes menacées de pauvreté. Et au concours Lépine de la mesure la plus sociale, Emmanuel Macron veut lui aussi aller plus loin.
Nous avons le sujet du salaire minimum que nous avons poussé, qui était au cœur de la campagne de 2019, que là aussi nous cherchons à faire avancer. Il y a des résistances, des réticences, il y a des moments de crispation, mais ils sont nécessaires pour qu'il y ait ensuite des avancées. Et j'entends faire la même chose sous présidence française, en particulier sur les sujets de fiscalité que nous posons depuis le début.
Alors l'idée est là, mais ça ne sera pas simple, notamment parce que les pays du Nord et de l'Est rejettent cette idée de salaire minimum européen. Qu'importe, Emmanuel Macron veut mener la bataille, d'autant plus qu'il sera à la tête de l'Union européenne en janvier prochain et qu'il compte bien en faire un argument de campagne.
Vincent Derosier, envoyé spécial à Porto pour RTL.
18h09, Amandine Bégaud revient dans un instant pour la suite du journal. Figurez-vous qu'on pourrait bien manquer de miel. On vous explique après ça, à tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Amandine Bégaud à 18h10, la suite du journal et la récolte de miel qui ne s'annonce donc pas fameuse cette année. C'est quoi cette histoire, Amandine ?
Eh bien, c'est la conséquence de l'épisode de gel qui a touché l'Ardèche, mais aussi la Drôme au tout début du mois d'avril. Vous vous en souvenez sans doute. On avait beaucoup parlé des dégâts pour les arboriculteurs, pour les viticulteurs. Eh bien, les apiculteurs n'ont pas été épargnés. Illustration à Épinouse avec Raphaël Vantard.
À chaque ruche postée près de champs, de vergers ou de forêts, le même constat. Rien ou presque. Daniel Chenevier est apiculteur dans le nord de la Drôme. Il regarde désolé ses maturateurs de miel presque vides. Le gel des arbres rend impossible cette année toute récolte de miel de fleurs et d'acacias.
Le gel qu'on a eu a grillé tous les boutons et bourgeons des acacias. Et on peut les voir, hein, c'est les seuls encore à l'heure actuelle qui n'ont pas pris de feuilles et qui n'ont pas verdi. Un apiculteur, c'est le berger des abeilles. Il se rémunère avec l'excédent de récolte d'une colonie. Ça ne sera pas zéro, mais enfin, on vit pas avec 50 kilos de miel hein, sur une année. Ça ne payera même pas les frais kilométriques pour aller voir les ruches.
En plus du manque de miel, c'est la survie de certaines ruches qui est en jeu aujourd'hui. Parce qu'à cause de la chute des températures, depuis 3 semaines, les abeilles mobilisent toute leur énergie pour chauffer leur ruche.
Chauffer l'intérieur d'une colonie en permanence à 35 degrés, ça demande un paquet d'énergie. Elles la réalisent uniquement en contractant leur abdomen et en chauffant l'intérieur de la ruche. Et si elles n'ont pas de rentrée de nectar, donc du sucre, pour pouvoir assurer ça, et ben elles ne peuvent pas se chauffer. Et si elles ne peuvent pas se chauffer, elles meurent.
Les apiculteurs de la vallée du Rhône attendent maintenant avec impatience les autres floraisons du printemps et de l'été, la lavande, le châtaignier, en espérant que d'ici là, les abeilles reprennent un peu le poil de la tête.
À Épinouse, dans le nord de la Drôme, le reportage de Raphaël Vantard pour RTL.
La suite du procès de Nordal Lelandais. L'audience a été suspendue. Amandine, elle reprendra lundi.
Aujourd'hui, l'accusé a été longuement interrogé. À plusieurs reprises cette semaine, on a pu penser qu'il était sur le point de craquer. Eh bien non, il maintient sa version, celle d'une bagarre qui a mal tourné, Anne Le Hénaff.
Oui, c'est à nouveau un homme froid et en plein contrôle qui a répété pendant près de 4 heures ce matin qu'il n'avait jamais voulu tuer Arthur, qu'il a caché le corps, puis changé plusieurs fois de version parce qu'il n'avait pas eu de courage. J'ai mis du temps à venir à la vérité. C'était compliqué. Le président insiste. Cette nuit-là, Arthur Noyer a dit à au moins 7 personnes qu'il voulait rentrer à la caserne. Et vous le déposez où ? À Saint-Baldoff. Pourquoi ? Parce qu'il me l'a demandé. Dans la voiture, Arthur m'a dit qu'il avait passé une soirée de merde, qu'il s'était fait voler son portable et qu'il serait bien reparti avec une petite poulette. La mère d'Arthur fait non de la tête, excédée. Le mot poulette fait tiquer plusieurs proches qui ne croient pas non plus à cette histoire de bagarre qui aurait mal fini. L'avocat de l'accusé, maître Jakubowicz, conclut l'interrogatoire. Si cette version n'est pas la bonne, c'est le moment. Les parties civiles n'y croient pas, la procureure générale non plus. Ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé. As-tu quelque chose à dire ? Les mains croisées devant lui, raide dans sa chemise blanche, le Landais, impassible, maintient sa vérité. Ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé.
Anne Le Hénaff à Chambéry pour RTL. 3 jours après l'abominable féminicide de Mérignac, Éric Dupond-Moretti participait cet après-midi à une table ronde sur les violences intrafamiliales. C'était au palais de justice de Rouen. Le ministre de la Justice promet la plus grande fermeté, plus de moyens également.
J'ai demandé, vous le savez, qu'une inspection soit diligentée pour que nous sachions exactement, précisément, si l'institution judiciaire, en ce qui concerne mon périmètre, a failli ou non dans cette affaire, et si c'est une réponse affirmative qui m'est apportée, je veux vous dire que je n'aurai pas la main qui tremble. Mais il y a aussi des outils que nous avons développés. Je pense en particulier aux bracelets anti-rapprochement qui sont à la disposition des juridictions de notre pays au nombre de 1000. Je dis que ces bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Et je le rappellerai à nos magistrats dans les heures qui viennent.
Les bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. Éric Dupond-Moretti, il était à Rouen cet après-midi. Et puis l'hommage des supporters du Havre à leur ancien gardien. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées cet après-midi sur la pelouse du stade Deschazeaux pour saluer la mémoire de Christophe Prevost, disparu subitement hier. De longs applaudissements, vous les entendez. Et puis une banderole où l'on pouvait lire ceci. Le joueur était grand. L'homme restera immense. Christophe Revault avec 49.
18h15, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Eh ben oui, nous voilà libérés, délivrés. Premier week-end de liberté pour la première fois depuis des semaines. Plus de limite de déplacement depuis lundi, je vous le rappelle, fini la règle des 10 km. C'est donc, Stéphane, le premier week-end où l'on peut en profiter, nous les grands espaces, les voyages en voiture et les bouchons. Plus de 350 km d'embouteillage rien qu'en Ile-de-France. Hein, alors qu'il est, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Attention, le couvre-feu, on le rappelle, c'est toujours à 19h. On n'est donc pas complètement libéré. Ouais.
Bonne nouvelle du jour et les choix musicaux d'Amandine Bégaud. Je tiens à le préciser aux auditeurs quand même. A tout à l'heure, 18h30, Amandine.
À tout à l'heure, il y avait ça aussi, c'est mieux.
Ça. Oui, pardon. Heureusement qu'on a Greg aux manettes qui rétablit les choses. A tout à l'heure, Amandine. L'actualité, c'est tout simple, c'est l'appli RTL et c'est la police sous le choc. On en parle avec un commissaire, David Lebars, juste après ceci. Il est notre invité, les 18h16, à tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Merci à vous tous d'être là, 18h17. C'est donc la police sous le choc qui nous intéresse ce vendredi après Rambouillet, après Avignon, un brigadier tué par balle avant-hier près d'un point de deal. Le gouvernement promet plus de moyens pour nos forces de l'ordre. L'invité donc de RTL Soir est David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'être connecté en direct. J'imagine qu'il y a ce soir encore un mélange de colère, d'écœurement, d'émotion, bien sûr, après le décès de ce collègue, 36 ans, papa de deux enfants.
Oui, il y a tout ça à la fois. On est en train de se rendre compte qu'on a encore perdu un des nôtres. On est en train de passer de la phase sidération et colère à la phase... je dirais décision, on va respecter évidemment le deuil, on est très très soudés les uns et les autres derrière la perte de plus que d'un collègue, d'ailleurs c'est toute une famille qui est touchée, une famille bien sûr au sens personnel, puisque Eric était à la fois le fils d'un policier, ses frères et sœurs sont policiers, il laisse des enfants, une femme, et la maison police nationale est extrêmement touchée.
Alors, on va vous récupérer. La connexion a été coupée il y a quelques instants. Est-ce qu'on récupère David Lebars qui a été coupé directement? Je rappelle qu'il est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Qu'il réagit et commente après les événements d'Avignon, donc ce brigadier tué par balle près d'un point de deal. Il nous disait, David Lebars, en direct il y a quelques instants, qu'il a 36 ans, ce brigadier, qu'il avait 36 ans, qu'il était papa de deux enfants et que c'est toute une famille de la police à titre privé qui est touchée, mais la police nationale dont son ensemble est vivant. Évidemment, ces policiers qui ont décidé de se rassembler le 19 mai prochain à Paris pour une marche, justement pour lui rendre hommage, et qui ont décidé de suspendre tout simplement leur participation au prochain Beauvau de la sécurité. On va en reparler avec lui, il a rétabli la connexion et on retrouve donc David Lebars en direct sur RTL. On disait Éric Masson, il a été tué par un dealer lors d'une intervention. Sont quoi? Sont des dealers armés aujourd'hui qui n'hésitent plus en 2021 à tirer pour des dizaines d'euros en plein deal de cannabis?
Vous savez, moi j'ai toujours fait preuve de prudence, c'est peut-être même pas un dealer, hein. Et d'ailleurs l'enquête est en train peut-être de prendre une autre orientation, c'est peut-être tout simplement de la haine, c'est peut-être tout simplement l'absence de motif et le fait de tirer sur un flic. Le procureur a dit lui-même qu'un individu, l'individu qui a tiré a demandé « qu'est-ce que vous faites là ?». Ça veut dire que la police qui est présente dans certains endroits, en soi, est un motif pour tirer et abattre un de nos collègues. Donc attention au motif. Plus il sera futile, plus on se rendra compte du danger que représente à la fois la circulation des armes et cette décomplexion face à l'usage de la violence.
Les tireurs et les collègues, justement, ils sont en fuite toujours, hein, ces individus, d'après ce que vous savez?
Oui, ils sont en fuite parce que le procureur de la République, sinon, aurait tenu une conférence de presse. Mais vous savez, c'est une question de temps. Cet individu est recherché par de très nombreux policiers qui savent parfaitement maîtriser une enquête. Et puis, à n'en pas douter, il va être extrêmement encombrant vis-à-vis de ses propres copains. Et il y a un moment où on va l'attraper et on le mettra à la disposition de la justice.
David Lebars, vous diriez aujourd'hui, au regard de votre vécu, du quotidien de vos collègues, que les policiers sont devenus des cibles et que la barrière de l'uniforme, elle n'existe plus pour les voyous?
Alors je vous le confirme, mais c'est pas que pour les voyous. Aujourd'hui, non seulement les policiers sont devenus des cibles, mais il y a plusieurs sujets qui fait qu'on peut mourir. On peut croiser la route d'un djihadiste qui décide de vous assassiner, comme c'est arrivé à Stéphanie à Rambouillet. On peut tomber sur un voyou ordinaire qui décide de vous tirer dessus pour un motif qui n'existe peut-être pas. Et puis on croise aussi la route d'anarchistes ou d'extrémistes qui veulent casser du flic et qui en appellent à les dénicher sur les réseaux sociaux ou à aller les chercher à domicile. Donc ce contexte général change complètement la donne pour un travail policier dont le but ultime, c'est de protéger la population. Or, on se retrouve les premiers à être mis en danger, il faut qu'on règle ce problème.
Comment on en est arrivé là, David Lebars? Les forces de l'ordre qui sont en première ligne, sans moyens. Je veux dire par là qu'on a un ministre de l'Intérieur qui fait par exemple de la lutte contre le trafic de drogue une vraie priorité aujourd'hui. Il envoie des soldats, des gendarmes, des policiers en première ligne, mais sans moyens pour faire face à cette délinquance.
Écoutez, il y a plusieurs raisons et on ne va pas résoudre tout ça en quelques semaines. Il y a d'abord une insuffisance chronique sur le régalien et police, justice ont largement été sous-dimensionnées ces dernières années, ces dernières décennies. La deuxième raison, c'est une augmentation qui n'est pas propre à la France, mais une augmentation de la violence, des comportements déviants. Et puis la troisième raison, il faut aussi la regarder, c'est l'épisode des Gilets jaunes, c'est les discours politiques qui ont été... extrêmement contradictoires et dont certains ont porté sur le fait de porter sur la haine du flic ou de dire que la police était violente, raciste et de se tromper d'ennemi ou à désigner comme l'institution police comme ennemi. Et ben tous ces ingrédients nous amènent dans la situation où on est.
Vous parlez de la justice. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la justice ne vous aide pas franchement en libérant, en relaxant trop facilement, très rapidement les délinquants? Est-ce que le fossé se creuse entre policiers et magistrats aujourd'hui?
Il y a une question qu'il faudra régler de toute façon, il faudra l'affronter froidement mais sereinement. Et au-delà de la justice, c'est l'efficacité qu'on veut donner à la justice. C'est bien beau de vouloir taper sur la justice, mais est-ce qu'elle dispose des moyens suffisants? Vous savez, en France, on manque largement de magistrats et de greffiers. On manque sans doute de tribunaux, en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'audiences correctionnelles. Et puis on manque du dernier maillon, on manque de place dans les établissements pénitentiaires quand il faut incarcérer les gens et en plus quand il faut les incarcérer dignement, c'est-à-dire individuellement. Et c'est toute cette chaîne pénale qui manque sérieusement de moyens et ensuite on verra s'il y a des décisions judiciaires qui sont ici ou là non compatibles avec l'intérêt public, mais c'est une question d'efficacité globale d'une chaîne pénale qui se pose.
Quand vous entendez le Premier ministre, comme c'était le cas ce matin, Jean Castex promet 10 millions d'euros débloqués pour sécuriser les commissariats et rénover les locaux et moderniser les équipements, ça vous fait grincer des dents ça, qu'il faille attendre des drames pour améliorer la situation, le décor, les outils des forces de l'ordre?
Non, mais vous savez, on connaît aussi la séquence politique. D'abord, il a fait une déclaration d'amour aux forces de l'ordre et c'est toujours bon à prendre, mais évidemment, il faut des actes. On va rencontrer le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur très très prochainement. Il y avait sans doute un effet d'annonce aujourd'hui qui se traduira par des mesures, mais bien évidemment que 10 millions d'euros, c'est pas suffisant et en même temps, c'est pas ce qu'on demande. On demande un vrai courage politique, on demande de pouvoir parler des vrais sujets et de prendre des décisions maintenant, parce que vous savez, il y a des décisions qui se prennent maintenant, mais qui seront des décisions de long terme. Et si on ne se dépêche pas, plus on perd de temps, plus on va laisser ce glissement sécuritaire arriver. Il ne faut pas laisser faire ça.
À tous les étages, justement, de ces forces de l'ordre, les syndicats ont annoncé hier la suspension de leur participation au Beauvau de la sécurité de ce mois de mai. Pour marquer quoi? Pour marquer un mécontentement vis-à-vis du gouvernement?
D'abord, c'est pour marquer une séquence importante qui est celle de penser à Eric et d'organiser notre marche citoyenne. On ne se voyait pas les uns et les autres venir parler du maintien de l'ordre le lundi pour ensuite organiser cette marche citoyenne qui est destinée à Eric et au-delà d'Eric, à toute la famille police nationale. Il sera temps de reparler du maintien de l'ordre. On l'a déjà fait pendant de nombreuses séquences et il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été écrites. La priorité aujourd'hui, c'est l'orientation qu'on veut donner au pays entre l'articulation de la police et de la justice et l'efficacité de la chaîne pénale. Et donc, on vise directement cette table ronde avec la justice. Et pour ça, on a reporté cette première table ronde maintien de l'ordre qui n'était plus opportune vu le timing.
La grande marche dont vous parlez, c'est le 19 mai prochain à Paris, hein, en hommage à ce collègue tué à Avignon. Concernant le travail de policiers dans notre pays aujourd'hui, David Lebar, je lisais ce matin que les policiers ne rentrent plus chez eux en uniforme par prudence et qu'ils recommandent à leurs enfants de ne pas dire aux copains à l'école quel métier fait papa ou maman. C'est ça la réalité?
C'est encore plus que ça. Il y a également des policiers qui font le choix de s'affranchir des règles administratives et d'habiter à 50, 60, 80 km de leur lieu de travail, alors que ça n'est pas réglementaire, pour à la fois se protéger et vivre dans la discrétion. Et tout ça, c'est totalement inacceptable. À l'époque, il y avait des policiers qui mettaient juste un blouson civil pour rentrer chez eux. Aujourd'hui, on ne peut même plus circuler dans un transport en commun avec le treillis, l'uniforme, parce que le risque d'être reconnu fait que directement vous êtes sous le coup de menaces, voire d'agression, et tout ça est inacceptable.
Emmanuel Macron n'a pas réagi à ce drame d'Avignon, on est 48 heures plus tard, il n'y a pas eu de tweet de l'Elysée, rien du tout. Est-ce que vous considérez que c'est du mépris de la part du président?
Je ne crois pas que le président puisse afficher du mépris vis-à-vis d'une institution républicaine. Il faut considérer que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur étant à la manœuvre, c'est son gouvernement qui est à la manœuvre. Et un signal donné par le Premier ministre, c'est aussi un signal interministériel. Parce que quand on parle au Premier ministre, on peut à la fois parler au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur. Il sera peut-être temps de parler au président de la République, mais pour le moment, la séquence, elle est à Matignon.
Et la rencontre, c'est donc à Matignon avec Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'insécurité, les violences contre les forces de l'ordre, ce sera évidemment l'un des gros dossiers des prochaines élections régionale et puis dans un an de la présidentielle. Vous attendez-vous des choses, des politiques, des actes plutôt que de grandes phrases?
Alors on attend des actes et en même temps on n'est pas naïf, on sait très bien que cette séquence régionale plus présidentielle risque de rendre le débat extrêmement sensible. Il nous faut de la sérénité, il ne faut pas laisser ce débat se passionner, il faut des décisions de court terme, mais il faut aussi entériner des décisions qui vont être celles de long terme, peut-être celles d'un prochain gouvernement, peut-être même celles des 10-15 ans, mais si on ne fait pas comme les armées par exemple, si on n'est pas capable de définir les menaces d'un pays et d'adapter les besoins de la chaîne pénale, on n'affrontera pas les années qui nous guettent et on sait tous que la violence est en train de se répandre et qu'il faut faire quelque chose et il faut investir sur l'avenir, quel que soit le bord politique.
Merci beaucoup David Lebars d'avoir été au téléphone en direct, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, notre invité donc dans RTL Soir, compte rendu bien sûr de cet entretien directement sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr. Vous restez bien là, soyez prudents si vous nous écoutez au volant actuellement, bonne route à vous, merci de votre fidélité. 18h27, on va faire un point complet dans un instant sur l'actualité. Dans la foulée, on vous dira qu'il va faire chaud ce week-end avec Claire. Et puis ensuite, on parlera musique, car oui, c'est confirmé, le printemps de Bourges aura bien lieu. Alors ce sera en été, ce sera à la fin du mois de juin. Et il y aura de belles affiches avec le patron du printemps de Bourges. Tout à l'heure, on parle de tout ça en détail. Ça nous fera du bien, la musique, à tout de suite.
RTL Soir.
18h29.
RTL Soir avec Stéphane Carpentier.
Et ce qu'il faut savoir de l'actualité de ce vendredi avec Amandine Bégaud.
Les bracelets anti-rapprochement n'ont pas vocation à rester dans les tiroirs. C'est le message ce soir d'Éric Dupond-Moretti. Trois jours après l'abominable féminicide de Mérignac, le garde des Sceaux appelle à la mobilisation. 1000 dispositifs, 1000 bracelets de ce type existent. Seuls 76 ont jusqu'ici été prescrits. Dans l'actualité également ce soir, ce nouveau record sur le front de la vaccination. 617 000 doses administrées en 24 heures en France. Côté restriction, la quarantaine obligatoire pour entrer sur le sol français va être étendue à d'autres pays, 7 pays dont la Turquie. Et puis il y a du foot ce soir, 36e journée de Ligue 1 et un derby en or pour commencer, Lens-Lille, le choc entre le 5e et le leader du championnat. Ce sera à suivre bien sûr en direct sur RTL. RTL Foot, c'est dès 20h.
Amandine Bégaud vous a informé. Beau week-end Amandine.
Merci,
il va
aussi
faire chaud en plus. Toute l'actualité, c'est l'appli RTL. Météoscope confirmation avec le ciel du week-end. Claire, d'abord demain, nette amélioration.
Nette amélioration avec au programme donc de la chaleur. On a ce flux de sud qui va apporter donc beaucoup de douceur. Ça se traduit par 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Donc une journée vraiment estivale. Donc ça se traduira par au meilleur de la journée 24 degrés au Mans, 23 degrés à Paris, c'est pas rien. 25 degrés à Lyon, encore à Marseille ou encore 30 degrés, que ce soit à Bordeaux, 31 degrés à Biarritz. Donc c'est vraiment dans le sud-ouest où on attend vraiment un pic de chaleur. Et sinon, côté ciel, eh bien ça sera également une très belle journée. Le soleil sera présent d'entrée de jeu sur les trois quarts du pays, à l'exception quand même d'un petit quart nord-ouest où justement il y a une perturbation qui tente de rentrer. Donc elle apportera quand même pas mal de nuages de la Vendée vers les Hauts-de-France, avec en prime un petit peu de pluie vers les régions du nord. Et puis donc dans l'après-midi, cette perturbation elle va très vite se décaler vers les frontières du Benelux. Donc on aura quand même de belles éclaircies qui vont réussir à se développer. Encore un petit peu de gouttes essentiellement vers le nord, mais c'est surtout le vent qui va se lever. 70 km/h vers les côtes de la Manche. Également aussi le vent d'autan qui va faire des siennes, 70 km/h.
Voilà un chouette samedi. Et après dimanche, ça dit quoi?
Alors dimanche en revanche, ça va un petit peu se gâter car la masse elle est quand même assez instable. Donc on a quand même la moitié est du pays qui va résister sous la chaleur, mais avec le vent, ce flux de sud qui va vraiment souffler fort, 90 km/h, il fera également beau. Mais par contre, ça va commencer à se gâter dans le courant de l'après-midi à partir de l'ouest, puisqu'on a justement une salve orageuse qui va partir donc du sud-ouest et puis remonter progressivement le bassin parisien. Ces orages, on va les retrouver donc lundi en début de semaine vers les frontières de l'Est, avec en prime de la pluie qui sera bien soutenue, alors qu'à l'arrière, ça sera un ciel beaucoup plus variable avec de bonnes averses, mais aussi quelques éclaircies. Et je voulais, juste avant de rendre l'antenne, qu'un risque d'avalanche est quand même bien modéré au niveau des Alpes du Nord, donc vraiment prudence puisque le manteau neigeux est encore bien instable, surtout avec les bonnes chutes de neige là, qui sont encore tombées ce matin.
Voilà, c'est complet. Météoscope dans RTL Soir, signé Claire Delorme. Auditeurs, auditrices, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. L'actualité détendue, 45 minutes pour apprendre des choses, le tout saupoudré de bonne humeur. On défait le monde, 19h15 comme tous les vendredis soirs avec Signy et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Et un beau programme.
Explication, analyse de fond et bonne humeur évidemment au programme. Vous savez, c'est le premier week-end où l'on peut circuler librement. Le déconfinement saison 2 est en marche. Eh bien, en mai dernier, exactement à la même période, c'était la saison 1. On a donc décidé de comparer le plus factuellement possible les deux situations et vous découvrirez que la conclusion est assez surprenante. Dans 12 jours, la réouverture des salles de cinéma, enfin, Plus de 400 films sont déjà prêts et attendent dans les tuyaux. Comment les cinémas comptent gérer l'embouteillage? Est-ce qu'on pourra voir les films qu'on a ratés à cause des fermetures? Eh ben, on allumera la lumière sur le sujet. Ce soir, il y aura aussi de la politique, Bill Gates et Napoléon, sans oublier encore un superbe cadeau à gagner. Écoutez bien, on vous offre un séjour pour deux, en relais château en bord de mer. Et en plus, on pourra y aller maintenant qu'on est libre. Bon, bref, le jeu et surtout la fameuse question du jeu, tout à l'heure, autour de 19h40, le début de l'émission, évidemment. Faut pas se tromper, c'est 19h15, soyez à l'heure.
Jusqu'à 20h, absolument. Et vous commentez, vous réagissez, les réseaux sociaux, le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. Toute l'équipe de Cyprien Sini qui s'installe donc à partir de 19h15 pour défaire le monde avec Monsieur Cadeau, il sera là aussi.
Monsieur Cadeau sera là, Grégory Caranoni.
Vivement tout à l'heure. En attendant tout cela, la musique, les festivals, le printemps de Bourges, c'est confirmé, aura bien lieu au mois de juin. Mais avec quels artistes et avec quelles mesures sanitaires? On va tout savoir avec le patron du printemps qui se connecte et on dialogue avec lui après ceci.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Tu m'as laissé seul dans la tempête. Avec mes rêves de conquête. Maintenant je t'attends.
Ce sera le premier gros rendez-vous musique de la saison et on pouvait pas passer à côté ce soir. Le printemps de Bourges aura bien lieu. Il se dévoile en termes de programmation et d'organisation. Il y aura Jean-Louis Aubert pour donner le coup d'envoi des festivités. Et le directeur du printemps est connecté depuis Bourges en direct. Bonsoir Boris Baudel.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, nous sommes très impatients d'avoir avec vous les détails de la programmation. Ce sera du 22 au 27 juin. Boris, on avait dialogué ensemble il y a pile 5 semaines. À ce moment-là, vous aviez de l'espoir, mais il y avait un petit doute. Est-ce qu'on est passé tout près de l'annulation ou pas?
C'était pas loin, hein. C'était pas loin. Écoutez, oui, non, c'était une surprise. Pour tout vous dire, les annonces de la semaine dernière ont été une vraie surprise, y compris pour nous, organisateurs de festivals, et pourtant, avec des discussions en cours depuis des mois et des mois. Donc, le périmètre d'annonce était assez surprenant. Donc, on s'est engouffré, on appelait les artistes et tout le monde était d'accord et on s'est lancé.
Ouais, chez le patron que vous êtes, le directeur du printemps, il y a un vrai soulagement, on l'entend bien ce soir. Donc c'est où, c'est quoi, c'est comment? 22-27 juin, c'est organisé comment d'ailleurs? D'abord.
Comment c'est organisé, c'est-à-dire?
Bah, concert assis.
On met une scène, on met des artistes. Et... non, comment c'est organisé? C'est vrai, là je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages pour nous dire, mais alors comment ça va se passer? Comment ça va se passer?
C'est pour ça que vous êtes là, Boris Baudel.
Mais je sais bien que ce n'est que pour ça, et j'ai plaisir à vous répondre. Moi j'ai envie de dire déjà, ça va se passer bien, et après comment ça va se passer, en date du 22 au 27 juin, parce qu'il y a plusieurs phases, séquences qui ont été annoncées par le gouvernement, pour tout vous dire, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce qu'on bouge d'une semaine pour aller chercher la fin du couvre-feu? Non, on avait déjà tout écrit, on avait... sans artistes, et puis on avait le Tour de France la semaine d'après, donc c'était pas possible. Donc on s'est dit go, on y va. Ce qui va se passer le 22 juin, du 22 au 27 juin, c'est que le Printemps de Bourges va jouer dans plusieurs salles de Bourges, comme il a coutume de le faire. Toutes ces salles seront dans une jauge maximale de 1000 personnes, mais c'était déjà notre choix, au préalable, on avait déjà calculé comme ça, pour s'assurer d'avoir un maximum de scènes et donc un maximum d'artistes. C'était vraiment ça notre objectif. Mmh. Maintenant les gens vont rentrer. Ils seront distanciés, on parle de 65% dans les jauges, a priori, hein, parce que tout ça va être affiné en courant de semaine prochaine par le gouvernement. 65% de jauge dans les salles. Donc moi j'ai envie d'être de très bonne humeur et de voir tout le beau côté des choses, c'est que souvent quand on va voir un spectacle, on rêve toujours d'avoir une place vacante à côté de soi, et ben là ce sera le cas. Mais en plus, vous pourrez poser votre veste à côté de vous et avoir tous vos amis à votre droite ou à votre gauche, puisqu'on pourra s'asseoir par groupe. Donc vous voyez, c'est quasiment un concert normal, assis. Naturellement, il n'y aura pas de concert debout la semaine du Printemps de Bourges, et ça va être très compliqué, même après le 30 juin, tout l'été, parce que les conditions sont quand même assez floues et assez compliquées. Donc ça sera le mieux qu'on puisse avoir, et surtout tout ce qu'on espérait depuis des mois, c'est retrouver les artistes sur scène et s'amuser avec eux.
Mais Boris Baudel, on est d'accord, ce sont des concerts assis, hein, on va pas pouvoir danser, gesticuler.
Oui, ce sont des concerts assis, on pourra s'asseoir par groupe, ce que je vous disais, des groupes de 1 à 6, et du 22 au 27 juin, on est dans des salles donc avec une distanciation. Donc c'est des salles qui sont voilà avec une jauge de 65%, donc franchement c'est très sécure, c'est très sûr, c'est bien plus sûr que j'ai envie de dire, que d'aller dans un magasin ou de prendre le train. Donc venez dans les salles de spectacle, il n'y a aucun risque, vous porterez votre masque, il y aura du gel si vous avez oublié de vous désinfecter les mains avant, mais on ne va pas vous demander grand-chose de plus, et il y aura simplement des flux de circulation pour s'assurer que les gens se croisent pas trop dans les couloirs, mais très sincèrement, c'est il n'y a rien de dramatique.
Du gel, un masque, il ne faut pas avoir un test ?
Non, puisque figurez-vous, en tout cas en l'état, moi, à la lecture des éléments que j'ai, dans les salles de moins de 1000 personnes, le pass sanitaire n'est pas imposé. Toutefois, s'il l'était, on s'organisera pour le faire, comme tous les festivals s'apprêtent à le faire d'ailleurs, pour les festivals de plus de 1000 personnes ou plus de, jusqu'à 5000 personnes et après le 30 juin. Le pass sanitaire sera certainement imposé. En l'état, sur les éléments de lecture qu'on a eu des premiers éléments, le pass sanitaire n'a pas été demandé sur les salles de spectacle de moins de 1000 personnes, ce qui était notre format. Donc pour l'instant, pas de pass sanitaire. Si ça doit changer, ça changera.
Il y aura du Catherine Ringer hein, sur scène, Boris Vedel, il y aura du Jean-Louis Aubert, on l'écoutait tout à l'heure. Ce printemps de Bourges, on déambule beaucoup. Vous allez pouvoir freiner, vous, les rassemblements hors concert dans la ville? Comment vous allez gérer ça?
Alors ça, on va demander un peu de patience. Et également, on l'a vu sur tous les sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer en dehors des salles. Là, c'est pareil. On a quelque chose qu'il faut un petit peu mieux... comment dire, mieux aborder, c'est quelle sera la réalité de ce couvre-feu au 22 juin. Donc pour l'instant, c'est donner un petit peu de temps. Généralement, on annonce d'abord les spectacles en salle et puis ensuite, on annonce le printemps dans la ville, donc toutes les activités en plein air, hein, en accès libre, gratuite. Ça, on va se donner encore quelques temps pour voir exactement ce qu'on peut faire, travailler avec les bars, les restaurateurs, la ville de Bourges, pour essayer de proposer le maximum de choses dans la ville pour que l'esprit du printemps soit pas simplement confiné dans les salles. C'est notre vœu le plus cher. On attend encore un peu de précision de la part du gouvernement et on y travaille avec la préfecture et j'espère qu'on pourra faire le printemps le plus généreux dans la ville.
Je reviens à l'intérieur des salles où il y aura les concerts, Boris Vedel. On va pouvoir manger dans les salles et boire des verres où il y a des restrictions là-dessus aussi. Est-ce que vous le savez déjà?
Mais écoutez, normalement, vous savez, en France, tout est très, très, très normalisé. Hein. Donc, c'est une salle, elle a une catégorie hein, d'exploitation. Donc, si une salle a, la licence de restauration, elle sera les conditions d'exploitation de restauration, donc de buvette, etc., seront les mêmes que dans les restaurants et dans les bars. Donc, en date du 22 juin, pour le printemps de Bourges, il n'y a pas de raison de penser qu'on puisse pas se restaurer ou boire une boisson. Mais néanmoins, je tiens quand même à le dire. C'est important, certes, mais nous, sur le format du printemps, ce qu'on avait décidé de faire, c'était des spectacles d'une durée de 3 heures maximale. Parce que ce qu'on craignait, c'est que les gens aient à venir en salle et à rester pendant 6 heures assis, sans pouvoir vraiment se déplacer, peut-être sans se restaurer. Donc, on avait déjà pris un choix prudent de se dire, on proposera maximum 2 artistes par soir, mais par contre, dans plein de salles et sur 6 jours, pour que les gens puissent, avoir une expérience de concert, optimal et pas avoir resté assis trop longtemps ou pas pouvoir se restaurer. Là, en l'occurrence, ça sera 3 heures de concert et on pourra certainement se restaurer dans la salle ou juste à l'extérieur de la salle.
Les billets, c'est à partir de quand qu'on peut les acheter?
Alors justement, les billets, ça sera mardi 17h, le mardi 11 mai 17h. Pourquoi on le fait en deux temps? C'est que d'habitude, les gens ont un peu de temps quand même avant que les salles soient pleines. Là, on craint, on espère, mais on craint surtout que les gens se fassent un peu surprendre. Donc, on annonce aujourd'hui, les gens peuvent préparer un petit peu ce qu'ils veulent voir absolument, et puis ils tiendront tous prêts à 17h mardi pour acheter leur place. Il faudra aller vite, je pense.
Bon, on y va pour la programmation, dans les détails. Boris Vedel, donc il y aura Aubert, il y aura Ringer, il y aura qui d'autre?
Ah, alors, attendez, j'ai 100 artistes, donc on va faire une petite sélection. Mais effectivement, on est sur des palais royaux. Nous, on a le palais d'Oron, on l'appelait le palais royal. Alors, on va commencer effectivement avec Aubert et Noé Préchaud, qui est une découverte du printemps de Bourges, de la scène musicale cette année, qui est extra. Aubert, parce que on a envie de faire ce petit clin d'œil au parrain des victoires cette année, et puis toutes ses aspirations pour un monde nouveau. Et on en a bien besoin. On aura Catherine Ringer et Lerita Mitsuko, le lendemain avec Feu Chatterton, une autre sensation du rock français. Pomme, victoire féminine, victoire de la musique cette année. Gaëlle Faye, extraordinaire. Philippe Catherine, Sébastien Tellier. Un beau plateau rap le samedi, Giorgio PLK. Et on finira avec Alain Souchon et Trio le dimanche soir. J'ai encore plein d'artistes. Il y a beaucoup de découvertes. Il y a plein de rock, il y a plein de rap, il y a plein de musique électronique. Pour ceux qui écoutaient Emmanuel Malin dans les Technival, comme moi dans les années 90, il sera au Palais Jacquard devant 50 personnes assises. Personnellement, même moi, j'ai pas compris quand on me l'a proposé.
La vie ne vaut rien, rien. vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, et là je dis.
Souchon pour le dernier soir, on est d'accord, hein, Boris Baudel, hein.
Ouais, il sera en clôture le dimanche soir au Palais d'Oron.
Ça nous fait une belle programmation tout ça, hein. Vous êtes content en tant que patron?
Oui, on est très content, parce qu'on a toujours, voilà, c'était le, ce qu'on voulait absolument, c'était de présenter toujours toutes les esthétiques des musiques actuelles. Pour nous, c'est super, super important. Ça va des grands artistes comme Aubert, mais c'est aussi toute la nouvelle scène avec Hervé, avec Prudence, avec Bonnie Banane, l'impératrice, Scar. Voilà, on a près d'une centaine d'artistes, hein, qui sont conviés au Printemps de Bourges, et encore plein de surprises à venir. J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. J'espère que tout le monde comprendra que c'est un printemps un peu spécial. Et oui, effectivement, il n'y aura pas de concert debout, il n'y aura pas les formats habituels cet été encore. Mais on va pouvoir retrouver les festivaliers pour de notre côté. Et puis pour tout le monde, retrouver les artistes. Et croyez-moi, les artistes, ils ont hâte de voir les festivaliers.
Ouais, c'était ma question justement, Boris. Ils sont impatients, ces artistes?
Très impatients. Très impatients, puisque effectivement, c'est vrai que les gens me disent « Ah oui, moi, si, je sais pas. » Bon, déjà, il y a beaucoup de concerts qui se regardent assis déjà, hein, et même en rock. Mais faut bien dire que les artistes aussi se sont posé la question de se dire « Est-ce que vraiment je... » Et les artistes ont fait le pas. Donc très sincèrement, si un artiste dit « Je vais faire un concert, et même si mon public est assis, je vais prendre la guitare, je vais prendre le micro », je pense qu'on peut leur faire confiance. Assis ou debout, ça sera la même chose, ça sera super.
On l'a vu avec les sportifs, est-ce que, vu le contexte sanitaire et économique, les artistes, ils ont baissé leurs exigences financières, leur cachet pour se produire ou pas?
Ouais, très sincèrement, depuis un an, moi, ce que j'observe, c'est une vraie solidarité entre les artistes, les producteurs, leurs producteurs et puis les organisateurs de festivals. Il faut se rappeler que l'année dernière, quand les festivals ont annoncé, ont annulé, les uns après les autres, il y avait quand même un vide juridique et tous les artistes ont joué le jeu. Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'attaque, tout le monde a compris. Et là, très sincèrement, les artistes ont bien vu que c'était très compliqué. Et on a pu discuter et je crois qu'il y avait surtout une envie de se retrouver et franchement, c'est ils ont été extra.
Le patron est heureux, hein, ce soir. Ça fait du bien de l'entendre.
Ouais, je suis super heureux.
Il y a cinq semaines, c'était pas pareil. Là, ça va beaucoup mieux. On est ravis.
On respire. Écoutez, c'est un début. J'écoutais un autre patron de grand festival des Vieilles Charrues hier sur une radio et il a raison. C'est de se dire, c'est incroyable. Il y a quelques semaines encore, on pouvait pas imaginer ça. On pouvait à peine y croire. Donc c'est un début, c'est pas forcément tout ce qu'on voulait, mais c'est un début, il faut prendre ça, il faut en profiter, il faut se lancer. Et puis penser aussi à ceux qui malheureusement n'ont pas pu organiser leur festival et leur édition cette année, et les attendre, et j'espère qu'ils seront vite de retour aussi sur scène avec les artistes et leurs festivaliers, et alors là, les beaux jours auront commencé.
Merci d'avoir été en direct dans RTL Soir, Boris Baudel, on vous souhaite un beau printemps de Bourges, ce sera le 22 jusqu'au 27 juin, les places à partir de mardi, il y aura Pomme, donc on le disait. Mais il y aura aussi que du beau monde, Trio par exemple. Hein.
L'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne.
Et puis Hervé qu'on avait reçu dans RTL Soir, qu'on aime beaucoup. Demain sera parfait, Boris Baudel. Merci d'avoir été chez nous. A très bientôt.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en paix. Je veux chanter et te baradiner. Demain sera parfait.
Et ce soir est parfait également, puisqu'Éric Brunet arrive dans une poignée de secondes. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Éric Brunet prend place dans RTL Soir, comme tous les vendredis, pour les temps forts de la semaine. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Mardi, vous avez écouté Michel Sardou, il était sur RTL, Éric, à l'occasion de la parution de son autobiographie « Je ne suis pas mort, je dors ».
Eh oui, je suis un fan de Sardou, ma chanson préférée c'est le France. C'est plus qu'une chanson d'ailleurs, c'est une ode au paquebot qui était l'une de nos fiertés nationales et que, sous Giscard, le gouvernement Chirac avait choisi de désarmer malgré les protestations et le France qui croupissaient au Havre sur le fameux quai de l'oubli. On ne se rend pas compte de l'impact qu'a eu à l'époque la chanson de Sardou sur des millions de Français qui se sentaient trahis et abandonnés. Il a même été convié, Sardou, à la fête de l'UMA pour y chanter le France. Sardou ne choquait pas par ses prises de position personnelles, mais par ses chansons. On l'a accusé d'être homophobe à cause de sa chanson Le rire du sergent, la folle du régiment. Les féministes lui ont reproché d'écrire dans les villes de grande solitude « J'ai envie de violer des femmes ». On l'a accusé d'apologie du colonialisme avec le temps des colonies. Et puis, grosse polémique, bien évidemment, sa chanson « Je suis pour » où il incarne un père d'un enfant assassiné. On a estimé que c'était un plaidoyer pour la peine de mort. À l'époque, les pros et les anti-Sardou, Stéphane, se foutaient sur la gueule. Sardou s'est fait traiter de facho par le journal Libération en 1977. On a même créé partout en France des comités anti-Sardou pour empêcher la tenue de ses concerts. Les manifestants l'accueillaient par des insultes. On peignait des croix gammées sur ses affiches et ses caravanes. On retrouva même une bombe dans une salle de concert à Bruxelles, obligeant Sardou à annuler la fin de sa tournée. Et en 78, deux célèbres sociologues iront jusqu'à publier un essai intitulé « Faut-il brûler Michel Sardou ?» Ben voilà, 40 ans ont passé et maintenant, Sardou est plus populaire que jamais.
Autre sujet qui suscite vos commentaires, Eric Brunet. C'était mardi, on apprenait que le film de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, fait l'objet d'une polémique aux États-Unis.
Eh ben oui, vous connaissez le conte, le prince, croyant Blanche-Neige morte, lui donne un baiser d'adieu. Ça a fait bondir les chroniqueuses du San Francisco Chronicle. Eh oui, un baiser qui sauve la princesse a été donné sans son consentement. Autrement dit, c'est une agression caractérisée. Ça fait des années que les films de Disney sont dans le viseur des partisans de la cancel culture, les accusant de véhiculer des stéréotypes sexistes, le prince charmant, la femme au foyer, etc. Peter Pan est par exemple jugé problématique pour sa scène avec les Indiens et l'utilisation du terme peau rouge. Pour Aladdin, c'est la représentation des Arabes qui est jugée trop raciste. Dumbo est accusé de caricaturer les Afro-Américains au travers du personnage des corbeaux qui chantent du blues. Quant à La Belle et le Clochard, il stigmatiserait les Asiatiques avec le personnage du chat siamois. Le plus dingue, c'est que Disney s'est excusé. Sur la plateforme Disney+, les films sont désormais précédés de ce message assez incroyable, digne de l'autocritique sous l'ancienne URSS. Écoutez, ce programme inclut des représentations négatives qui maltraitent les gens et les cultures. Nous voulons reconnaître son impact nocif, en tirer des leçons et nourrir des conversations pour créer ensemble un futur plus inclusif. Fin de citation. Mais ça n'a pas suffi à éteindre la polémique, si bien que Disney a pris une décision plus radicale. Désormais, si les enfants souhaitent voir Aladdin, Dumbo ou Peter Pan, ils devront le faire avec l'autorisation de leurs parents, un peu comme sur une télévision avec les contenus violents ou pornographiques. Là, je trouve que c'est un peu délirant.
Et puis mercredi, parlons politique, Eric Brunet. Mercredi, un sondage nous apprend que seulement 11% des Français font encore confiance aux partis politiques.
Bah, quelques chiffres dingues. Le Parti Socialiste avait plus de 250 000 adhérents en 81. Ben aujourd'hui, c'est 20 000. Le RPR avait 400 000 adhérents dans les années 80. Ben aujourd'hui, c'est 60 000. Europe Écologie, les Verts, qui est à la tête de plusieurs grandes métropoles en France, ne rassemble pas plus de 10 000 adhérents aujourd'hui. Il y a davantage de Français qui ont une carte à la Fédération française de pêche que tous les partis politiques additionnés. Fini les militants. D'ailleurs, de plus en plus de candidats font désormais appel à des sociétés privées pour coller les affiches ou distribuer les tracts. Et puis En Marche, tiens, ce nouveau parti d'un nouveau genre est plein d'avenir. A priori, oui. Bah, 418 000 adhérents en 2017, au moment de la présidentielle, et seulement 20 000 aujourd'hui, selon le Canard enchaîné, soit une chute de 95%. C'est pas de là que viendra le renouveau de la vie politique.
Et puis ça n'a échappé à personne, c'était mercredi, la France a commémoré le bicentenaire de la mort de Napoléon.
Ah, j'adore Napoléon, mais le plus grand héritage qu'il nous laisse, c'est son neveu, Napoléon III. Bah, je suis un fan. Pour moi, c'est le meilleur chef d'État que la France ait jamais eu depuis deux siècles. Et ça fait 150 ans, on fait tout pour l'effacer de notre histoire, mais moi, j'aimerais le réhabiliter. D'abord, avant de devenir Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte a été le premier président de la République française élu au suffrage universel. Et au cours de ses 18 années de pouvoir, son régime a progressivement évolué vers le parlementarisme. Un truc dingue, à la fin de son règne, Napoléon III a carrément nommé chef de son gouvernement le chef de l'opposition républicaine. Lui, c'était l'empereur, il a pris un républicain, Émile Ollivier. Bon, c'était un type assez social d'ailleurs. Émile Zola l'aimait beaucoup. Et Napoléon III était le premier à accorder
demandait le droit de grève en 1864. Et puis un siècle avant Roosevelt, il a mené une politique de grands travaux. Sa campagne d'assainissement a sauvé le département des Landes, menacé d'ensablement. Il est à l'origine du canal de Suez. Et il a permis la création des grandes banques modernes, des grands magasins, et puis les stations balnéaires de Deauville à Biarritz. J'adore ce type. Il a fait de Paris la plus belle ville du monde. Hein. On lui doit Vincennes, Boulogne, les bois, bien sûr. Hein. Le marché des Halles, l'opéra Garnier, les kiosques à journaux. Voilà. Et puis les premiers égouts. Il a même lancé la première opération militaire à but humanitaire pour venir en aide aux chrétiens maronites dans ce qu'on appelait à l'époque le Liban, qui est devenu l'État du Liban. Voilà. C'est pour tout ça, mon cher Stéphane, qu'aujourd'hui, je vous dis vive l'empereur, mais pas Napoléon Ier, non, Napoléon III, dont je suis fan.
C'est très clair et c'est un hommage signé Éric Brunet. Éric, on vous retrouve dimanche, 13h, 14h, votre émission de débat, bien sûr. C'est Où va la France ? À dimanche, Éric.
À dimanche.
Bon début de soirée, il est 18h57. Dans un instant, toute l'actualité dans RTL Soir. À tout de suite.
RTL Soir.
Bienvenue à vous tous, 19h.
RTL Soir. Avec Stéphane Carpentier.
Et bienvenue à Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce vendredi soir. Bonsoir Aude.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
À la une, un record de vaccination en une journée. Plus de 600 000 personnes ont été piquées.
Et avec les projecteurs braqués sur le Covid, on aurait presque oublié certaines épidémies. Grâce aux gestes barrières, la gastro et la grippe ont quasi disparu des radars cet hiver. Le bizutage hallucinant d'un pilote de l'armée de l'air en Corse, il a porté plainte. On l'apprend à l'instant. Éric Dupont, Moretti, le garde des Sceaux et candidat LREM dans les Hauts-de-France, au départemental, non pas au régional. Et puis du football, un derby historique dans le Schnorr, Lens-Lille, ce sera à 21h.
Il va faire chaud et beau ce week-end, météo complète à la fin du journal, et puis dans la foulée, on va défaire le monde.
RTL Soir.
Depuis lundi, avec la fin des restrictions de déplacement, vous êtes peut-être parti en week-end. Si vous êtes en Bretagne, bonne nouvelle, les excursions et les croisières reprennent. Départ prévu demain à Saint-Malo avec les bateaux corsaires. Jean-Luc Griffon est le gérant de la compagnie.
C'est le top départ demain de la reprise de la saison 2021. Nous allons intensifier le service en augmentant le nombre de rotations jusqu'à 44 traversées. Et puis nous reprenons nos excursions côtières avec la baie de Saint-Malo, la côte ouest avec le Cap Fréhel, toujours au départ de Saint-Malo-Dinard. Donc c'est la reprise des croisières commentées également. Les bateaux sont des grandes vedettes à passagers où il y a beaucoup d'espace. Il y a donc des ponts supérieurs dégagés en plein air, mais des bateaux d'une capacité par exemple de 245 à 280 passagers, on mettra que 150 à 180 passagers, donc il y a largement de la place. Love, exciting and new.
Come aboard. Ah, ça donne envie, forcément. Propos recueillis par Nicolas Bobby pour RTL. Alors avec ce premier week-end de pont qui arrive, le ministre de la Santé, Olivier Véran, appelle tout de même à la prudence. Depuis Clichy-sous-Bois, il était en déplacement dans un centre de vaccination.
Un grand nombre de Français vont être amenés à bouger, à aller retrouver leur famille, puisque un certain nombre d'entre eux pourront faire ce qu'on appelle le pont. Eh bien, j'invite, comme nous l'avons fait avant Noël, j'invite les Français à aller se faire tester massivement avant de retrouver leurs proches. On se fait vacciner, on se fait tester, et tout ça en sécurité.
Les conséquences économiques de la pandémie et les dégâts sociaux sur les populations évoqués au cours d'un sommet européen à Porto. Les 27 dirigeants, dont Emmanuel Macron, sont réunis en ce moment au Portugal. L'occasion pour le chef de l'État d'envoyer une missive au Royaume-Uni. Il appelle les anglo-saxons à arrêter de bloquer les exportations de vaccins et les ingrédients nécessaires pour les produire. En France, un record de vaccination aujourd'hui. Plus de 600 000 doses ont été injectées. On rappelle qu'à partir de mercredi, plus de limite d'âge. Les adultes de plus de 18 ans pourront prendre un rendez-vous la veille pour le lendemain s'il reste de la place et des doses.
Alors sur le plan sanitaire, le Covid aura eu au moins un mérite, faire disparaître certaines maladies.
Ces virus de l'hiver qui engorgent d'habitude les cabinets de médecins et les urgences, la gastro-entérite et la grippe, eh bien cette année pas d'épidémie grâce notamment aux gestes barrières, Odile Pouget.
Ah oui, on peut même pour la gastro-entérite parler d'une baisse historique en 10 ans de surveillance par Santé publique France et du jamais vu. Il y a bien eu un petit pic autour du nouvel an dû essentiellement à des intoxications alimentaire liée à la consommation d'huîtres, mais quasiment plus rien à partir du premier confinement. Très très peu de grippe également, zéro cas en EHPAD depuis octobre dernier, zéro cas grave admis en réanimation. On est très très loin des 3700 décès enregistrés pour la saison 2019-2020. Le port du masque a sans doute constitué la barrière la plus efficace, mais aussi le lavage régulier des mains, essentiel pour la transmission pour la gastro par exemple, le respect des distances et puis des déplacements très limités. Résultat, les ventes de médicaments anti-diarrhée ou les sirops contre la toux se sont effondrées. Une chute de plus de 50% sur un an pour ces derniers. Un tiers d'antibiotiques en moins. Les pharmaciens qui ont perdu 145 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année se sont quand même rattrapés avec les masques, les vaccins et les tests antigéniques pour ceux qui font du dépistage.
Merci Odile. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Je vous communique les derniers chiffres de l'épidémie. La tendance est toujours à la baisse. Un peu plus de 5100 patients en réanimation. Quasiment 900 de moins qu'en début de semaine dernière. En revanche, le nombre de décès quotidiens reste élevé, 227 ces dernières 24 heures.
C'est une nouvelle tendance pour devenir actionnaire sans investir des centaines d'euros. Acheter une fraction d'action, ça vaut notamment pour les jeunes. Au lieu d'acheter un titre à 700 euros, on en achète un centième à 7 euros. Mais ça n'est pas toujours si rentable, les explications de Martial Youn.
C'est un peu l'esprit Bitcoin. Les stars de la bourse sont aujourd'hui hors de prix. 348 euros pour une action L'Oréal, 625 euros pour un titre LVMH ou 663 dollars pour une Tesla. Difficile dans ces conditions de rentrer et d'avoir suffisamment d'actions pour gagner de l'argent. Surtout que le secret est de constituer un panier avec plusieurs entreprises. Mais désormais, des plateformes proposent donc d'acheter des morceaux d'actions pour se constituer un petit portefeuille et profiter de la hausse des marchés boursiers en ce moment. Mais attention quand même, il y a des risques, surtout si on n'est pas formé à la bourse, prévient Guillaume Dolidon, avocat en droit boursier.
On va regarder surtout le nom et puis le prestige de la société dans laquelle on va investir. Et puis, bah, évidemment, l'investissement en bourse, ça reste forcément par définition un risque puisque on peut perdre la totalité de son investissement.
Les Français ont de l'épargne et la bourse affiche de belles performances. Cette solution peut donc séduire un nouveau public. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers a enregistré 410 000 nouveaux boursicoteurs l'an dernier et un tiers des Français seraient même prêts à investir jusqu'à 100 euros à la bourse.
Martial Youn, chef du service économie d'RTL, et d'après les prévisions de la Banque de France, on estime que l'épargne des Français atteindra 55 milliards d'euros cette année.
La suite du journal, c'est dans un instant. Vous restez bien là, s'il vous plaît. 19h06, avec un homme ligoté, attaché à un poteau sous les canons des Mirages. C'est pas une prise d'otage, mais un bizutage signé l'armée de l'air. On va tout vous raconter après ceci.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Aude Vernuccio, la suite du journal à 19h09 avec l'histoire ahurissante d'un bizutage. Ça se passe en Corse, dans les rangs de l'armée de l'air.
Affecté à la base de Solenzara, ce pilote de chasse est resté ligoté à un poteau et encagoulé au milieu d'un champ de tir pendant que des mirages s'exerçaient. Il a porté plainte. Maître Rossi Arnaud, son avocat.
Il y a deux séries de vols qui sont pratiqués. Des vols où il tire en sa direction à balles simulées, donc à blanc. Et puis, deuxième série de vols, des lancements d'obus sur les cibles qui sont de part et d'autre du poteau auquel il est attaché et qui sont distantes d'un kilomètre. Un obus qui éclate, il y a des effets de ricochet, il y a des effets de déflagration. Tout ça aurait pu l'atteindre même si c'était la cible de gauche qui était visée. Je ne sais pas si c'est un bizutage, ça en a l'apparence. En tout cas, les faits sont juste dingues, dingues.
Pourquoi 2 ans entre les faits et le dépôt de cette plainte?
Parce que c'est un vrai militaire qui appartient à un corps, qui a un esprit de corps et qui a eu l'acuité, malgré le caractère gravissime des faits subis, de chercher à tout prix de ne pas les porter sur la place publique et d'essayer, en espérant trouver une écoute auprès de sa hiérarchie, espérer trouver une solution, comme on dirait en droit, de bonne intelligence. Apparemment, ça n'a pas été le cas.
Propos recueillis par Étienne Baudu et Brice Dugénie pour RTL. 2 jours après le meurtre d'un policier sur un point de deal à Avignon, le tireur et son complices sont toujours en fuite. Tous les moyens sont mis en œuvre pour les interpeller, selon le procureur de la République.
Et puis un groupuscule néo-nazi interpellé en Alsace.
6 personnes, dont 3 actuellement dans le bureau du juge antiterroriste, pour avoir projeté une attaque contre des francs-maçons. Ils avaient effectué des repérages. Guillaume Chiez, on en sait plus ce soir sur leur profil.
Oui, ils appartenaient tous les 3 à un groupuscule néo-nazi
Saoudite baptisée Honneur et Nation. Ces deux hommes et cette femme âgée de 29, 53 et 56 ans auraient pris pour cible une loge maçonnique implantée en Moselle. Ils sont soupçonnés d'avoir effectué des recherches sur Internet, notamment pour apprendre à fabriquer des explosifs. Ils auraient également fait des repérages des lieux pour mener à bien leur projet. Une attaque qui n'en était qu'au stade d'ébauche. L'enquête a débuté en février dernier et c'est en se penchant sur les échanges des divers membres du groupuscule que les enquêteurs ont décidé de mettre un terme à leur projet et de les interpeller mardi dernier. En perquisitionnant leur domicile, ils ont mis la main sur divers objets et écrits néo-nazis, mais aucune arme détenue illégalement et surtout aucun explosif.
Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. Au chapitre politique, on vous en parlait à l'instant, cette dernière minute, Éric Dupond-Moretti sera bien candidat LREM dans les Hauts-de-France au régional, mais il ne sera pas tête de liste, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, effectivement, Éric Dupond-Moretti confirme qu'il sera candidat au régional. Le bruit en courait depuis plusieurs jours, mais ce n'est pas lui qui tirera la liste. Il sera tête de liste dans le Pas-de-Calais, et le Pas-de-Calais, ce n'est pas un hasard. Si Éric Dupond-Moretti rappelle dans La Voix du Nord ses attaches régionales, il s'agit bel et bien de se mesurer à Marine Le Pen, qui elle aussi se présente dans le Pas-de-Calais sur la liste de Sébastien Chenu. À la différence de Xavier Bertrand, le président sortant, dit Éric Dupond-Moretti, je ne veux pas chasser sur les terres du Rassemblement national, je veux chasser le Rassemblement national de cette terre. Il rappelle que la région est une terre d'immigration et qu'il en est le fruit, puisque sa mère est venue d'Italie, une terre d'ouverture, une terre européenne. Éric Dupond-Moretti, qui fait donc de sa lutte contre Marine Le Pen une priorité aujourd'hui.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL, le ministre de la Justice, sera donc numéro 1 au départemental et numéro 3 au régional, pour être précis.
Le football au programme ce soir, un gros derby dans le Nord.
Oui, Lens affronte Lille dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h. Au-delà de la belle affiche, c'est un match aux enjeux décisifs pour les deux clubs, Samuel Duhamel.
Oui, ce 112e derby du Nord est clairement l'un des plus importants de l'histoire. Il va opposer deux équipes qui réalisent une saison magnifique, au-delà même des attentes de leurs supporters. Lens est un club promu que beaucoup d'observateurs attendaient en queue de classement. Les voilà 5e à 3 journées de la fin, avec une réelle opportunité de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce serait une première depuis 14 ans. Lille est un leader surprise qui compte 76 points, un petit point de plus que le Paris Saint-Germain. Un total qui n'impressionne pas Gaël Kakuta. Le meneur de jeu lensois, né à Lille, a une préférence claire pour le titre de champion.
Si on peut priver Lille aussi du titre, ça serait beau aussi. À votre avis. Paris.
Mais comme l'a rappelé Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, les joueurs lillois sont comme des chiens avec un os dans la gueule. Un os qu'ils veulent garder jusqu'au terme du championnat pour gagner le 4e titre de l'histoire du club. On s'attend donc à un match disputé avec un petit avantage pour le LOSC qui n'a plus perdu face aux voisins lensois depuis 11 rencontres.
Samuel Duhamel à Lens pour RTL. Match à suivre en intégralité dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi et toute l'équipe.
Merci Aude. 20h, on vous retrouve pour toute l'actualité. Vous avez à disposition l'appli RTL. Le temps demain, samedi, ce sera chaud, Claire.
Ça sera chaud et beau, en tout cas sur les trois quarts du pays, puisqu'on a une petite perturbation qui va quand même tenter de rentrer par le quart nord-ouest. Donc ça va se traduire encore par beaucoup de nuages et puis quelques petites gouttes, hein, mais qui seront vraiment très locales et de très faible activité, surtout vers les régions du nord en matinée. Mais dans l'après-midi, bien cette petite perturbation elle va très vite s'évacuer vers les frontières du Benelux. De belles éclaircies vont quand même pouvoir se développer au fil des heures, mais avec le vent qui va quand même se lever, 70 km/h, surtout près de la Manche. Partout ailleurs, sinon, un très beau soleil, un d'entrée de jeu dès le matin, donc vraiment très agréable. Toutefois, avec un risque d'avalanche principalement au nord des Alpes, donc vraiment le manteau neigeux est instable, donc vraiment une situation à surveiller. Et puis alors, là, côté température, le mercure va flamber, surtout dans le sud-ouest, on attend quand même 30 degrés à Bordeaux, 31 degrés la maximale à Biarritz. Et puis sinon, à titre d'exemple, on a eu cet après-midi 15-16 degrés à Paris. Ben demain, ça sera 23 degrés. Ou encore à Dijon, 15 degrés également. Et bien demain, ça sera 22 degrés. Pour vous donner d'autres exemples, 26 degrés à Grenoble ou encore 24 degrés au Mans. Bref, c'est le moment de sortir les t-shirts et les belles robes.
C'est le moment, merci Claire Delorme.
Allez.
Ce sera chaud demain, samedi. Ça va être chaud dans un instant pour défaire le monde avec toute l'équipe, avec Cyprien Cini, avec Laurent Tessier, avec Brice Dugénie.
Bonsoir.
Studio avec Marie Mollet à distance, avec Greg, car Anony qui est derrière la vitre, il est aux manettes. Tout est prêt, les amis ?
Tout est impeccable.
Alors,
on espère. On espère.
Hop, 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 hop.
Je me suis un peu emballé déjà.
Ouais, d'accord. On y va après ça, à tout de suite.
RTL Soir.